I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Je ne sais pas quand ça a basculé. Une ride un peu plus évidente, un beau matin, quelques grammes en trop sur la balance, ce cheveu qui tombe dans un moment de faiblesse. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation? Voilà quelques mois que je ne reconnais plus Maxime. Depuis un paquet de temps maintenant, son vocabulaire a changé. Il nous parle protéines, podomètre, glycémie, cuisson des pâtes. Maxime a décidé de se prendre en main. Sa vie tourne autour de ses promenades imposées chaque jour pour, je cite, atteindre les 10 000 pas quotidien. Il marche n'importe où, sans but, pour atteindre ses objectifs, remplir les cercles de son Apple Watch et faire reculer l'emprise du temps sur lui. Il pèse ses aliments, étudie les étiquettes et devient un poil agaçant. Quoi ? T'as 6000 poids de moyenne quotidien ? Fais gaffe, c'est pas bon ça, hein ? Fini les flancs, ce midi il a pris une banane et un paquet d'amandes. Ils disent que si t'as un creux dans la journée, tu manges 10 amandes et c'est bon. Je le reconnais plus. D'autant qu'il a refait toute sa garde-robe pour épouser sa nouvelle silhouette. Maxime est parti dans un trip. Bon, en gros, pour vous expliquer, c'est comme si Michel Blanc tentait de devenir Vin Diesel. C'est un peu ça, non, Maxime?
Alors, tu sais que j'ai une théorie là-dessus.
T'as une théorie sur tout.
Oui, à peu près, ouais, sur les chauves. C'est-à-dire, soit t'es Michel Blanc, soit t'es Vin Diesel.
Bah, toi, t'essayes de passer l'un à l'autre.
Mais alors, déjà, c'était quoi cet accent provençal au début à la 10 000 opéras?
Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi.
Et non, bah, en fait. Non, justement, c'est là que tu vois bien au quotidien. C'est pour cacher mes excès. J'essaie d'équilibrer, en fait. Non, et comme vrai, je suis incapable de
ne pas... C'est la crise de la cinquantaine.
J'ai pas 50 ans. Par exemple, en vacances, je peux pas empêcher de manger des conneries. Donc, j'essaie d'équilibrer, c'est tout. C'est la vie, c'est un équilibre. Et tu dis marcher sans but, je sais pas où je vais, mais l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage.
Il y a deux genres de personnes qui font des promenades sans but. Les tolards et Maxime Dupuis. Non mais c'est vrai, il part, juste pour faire ses 10 000 pas quoi. C'est un petit côté triste, non quand même?
Non, parce que alors, quand je suis en télétravail, j'en profite pour donner mes coups de fil, plutôt que rester assis au bureau, hop, moi j'habite à la campagne, tac, tu marches un petit peu, voilà. Et puis non, c'est important parce que ça arrive vite, il faut s'aérer, les VO2 max, tous ces trucs-là, il faut les entretenir.
Ah oui, VO2 max, j'ai oublié ça.
Là, tu vas me faire passer pour le mec qui pèse ses aliments. Non, mais alors là, si j'en étais là, je suis le mec qui a le moins de volonté.
Je pense que c'est le prochain stade quand même.
Non, mais je suis le mec qui a le moins de volonté au niveau de la nourriture. Donc, enfin, peut-être pas le moins, mais en fait, mon problème, justement, c'est.
Tu changes. Tu vieillis.
Ah oui, mais tout le monde vieillit. Voilà. Je fais attention, là. Ouais. J'ai perdu 2 kilos quand même. En équilibrant.
Tu veux une médaille ou...
Non, mais c'est bien, c'est pour dire, c'est un grand message d'espoir, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de moins manger, tu manges un peu mieux, c'est-à-dire que bah, quand tu manges des frites, tu ne mets pas des pâtes avec. Essaye, tu vois, c'est vachement bien.
Alors, les conseils, alors ça serait, on va peut-être faire un nouveau podcast, les conseils nutrition de Maxime Dupuis pour perdre 2 kilos en 4 ans.
Non, ça va vite.
Ouais, ça va vite. On parle football ou pas, Maxime, aujourd'hui?
Si tu veux.
Alors, toi, t'as mis sur ton papier qu'on démarrait par Mourinho.
Je sais pas. Bah, oui, ça me paraît.
Toi, tu fais des pas, mais en revanche, tu t'organises pas.
Ça me paraissait logique, mais on peut démarrer par Jean-Mich.
Moi, j'avais prévu de
démarrer par Jean-Michel.
Trois sujets aujourd'hui. On démarrera donc avec l'Olympique Lyonnais et on reviendra parce qu'on en a pas parlé dans le FC Stream Team, même si ça date de lundi dernier, sur l'éviction de Jean-Michel Aulas qui manquait un tout petit peu de classe. Quand même.
Et de toute façon, comme on était en vacances, on fait un peu ce qu'on veut quand on revient.
Exactement.
On parlera ensuite d'un sujet qui est commencé à poindre la semaine dernière, mais qui a pris un tout petit peu plus d'ampleur cette semaine. C'est le cas Mourinho. Parce que Mourinho, c'est celui qu'il faut au PSG.
Et alors que l'hypothèse prend de plus en plus de crédit, se posera quand même la question Messi en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est bien raisonnable? Moi, perso, ça me fout les boules, tu vois. C'est du sucre dans ta crêpe qui te fout les boules en ce moment. Moi, c'est Messi en Arabie Saoudite, tu vois. Ça, je.
Bah, c'est, ouais, malheureusement, c'est une forme de réal politique. mais on en parlera dans la troisième partie d'émission. L'émission qui est à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Acast, etc. Vous mettez évidemment 5 étoiles, vous vous abonnez évidemment et vous mettez des petits commentaires que l'on va voir, mais qu'on n'est pas allé voir avant cette émission, donc on ne tient même pas nos promesses.
Exactement. On y va, on commence, Maxime ?
Eh bien, on y va.
Jean-Michel Aulas, donc, qui a été évincé de son poste de président de l'Olympique Lyonnais, c'était lundi dernier. Jean-Michel Aulas, qu'on pensait immortel, qu'on pensait éternel à ce poste de président d'un club qu'il a pris tout en bas et qu'il a mis quasiment tout en haut en Europe. Maxime, comment tu as vécu ça, toi ? On trouve quand même que ça a manqué un petit peu de classe, la sanction, l'éviction en tout cas de JMA.
Oui, complètement. Alors, on l'a dit suffisamment ici. À chaque fois qu'on parlait de Jean-Michel Aulas, on était les premiers à dire qu'on pensait qu'il avait fait son temps, et même avant qu'il revende le club à Textor. On disait aussi, il n'y a pas si longtemps, que évidemment personne n'imaginait que ça puisse durer 3 ans. Parce que quand vous avez quelqu'un qui met des billes dans un club, qui prend la tête d'un club, il place ses hommes. Et c'est, au fond, il y a quelque chose de normal. Maintenant, c'est vrai que ça s'est fait de manière un peu violente. Et symboliquement, ça arrive un drôle de soir pour l'Olympique Lyonnais. Ça arrive le soir, enfin, du moins le lendemain matin officiellement, mais on l'apprend via l'équipe vers minuit 30. Ça arrive le jour du Lyon-Montpellier complètement fou. Match qui restera dans les annales de l'OL, qui non pas sauve la saison, enfin peut-être qu'il va participer d'ailleurs à sauver la saison, parce que c'est un club maintenant qui peut revenir sur les places européennes. Donc oui, c'est vrai que le symbole est assez terrible. Il n'était pas dans le stade, il y avait cette chaise vide. Les joueurs, même Dejan Lovren en a parlé aujourd'hui en conférence de presse, il se demandait un peu, d'habitude il est tout le temps avec nous, donc là il n'était pas là. Donc oui, c'est vrai que ça aurait pu se faire mieux, mais d'un autre côté, je me demande comment ça pouvait se faire mieux, parce que le cordon, fallait couper le cordon, et de toute manière, à un moment ou à un autre, ça aurait été difficile. Alors,
Il y a le communiqué qui est lapidaire.
Oui, ça, je suis d'accord.
Le timing qui est un peu indélicat.
On peut très bien dire, on attend la fin de la saison, mais après, là, ce qu'on voyait quand même, notamment dans une interview qu'avait donnée Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines, qu'il était quand même en désaccord. Voilà, et qu'il avait sorti cette phrase, je crois que c'était dans l'équipe, qu'il explique en gros, si on m'impose des trucs, ça va pas le faire en gros. Ah oui, donc vous êtes le proprio, vous entendez ça, vous savez à qui c'est destiné, vous savez que c'est pas trop acceptable. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit, il faut couper maintenant parce qu'il faut préparer la suite. Mais c'est vrai que, de toute façon, je pense qu'il y a... Je ne sais pas s'il y aura une sortie, hormis attendre la fin des 3 ans, qui aura été à la hauteur des 36 ans de Aulas passés au club.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de lui donner une sortie à la hauteur de ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, tant il a apporté. Mais Dejan Lovren, il a aussi dit, on ne l'a pas respecté quand même. Donc, parce que ça s'est fait un peu en... Voilà, en douce, catimini, voilà, en catimini, les joueurs l'ont appris dans la presse, hein, c'est ce que nous a appris aussi Lovren ce vendredi. Voilà, c'est un peu... Voilà, il est sorti par la porte de derrière, quoi. Mmh. Et il méritait au moins la porte d'entrée, voire un peu plus. Moi, j'aurais aimé, effectivement, que ce soit dit sur la place publique, que ce soit officialisé. Je sais pas, peut-être quelques jours avant la dernière journée de championnat, qu'ils prennent le mégaphone des supporters de l'Olympique Lyonnais, que ça se termine en liesse absolue le soir de la 38e journée. J'aurais aimé ça pour Jean-Michel Aulas, parce que je pense qu'il n'y a pas un président qui le mérite plus que lui. Il a mis tellement de lui dans ce club, il a mis, c'est quand même important de le rappeler, à l'ère des présidents délégués,
ouais,
que c'est son argent, hein,
ah oui,
quand
c'est
même.
Lui.
L'Olympique Lyonnais, c'est pas l'argent d'un État ou l'argent de lointains actionnaires, c'était son fric, hein, l'Olympique Lyonnais. Donc c'est son bébé, c'est son projet. Et là, on a un peu l'impression que qu'il est un peu rayé de l'histoire un peu vite. Alors oui, il aura une loge, il aura une voiture de fonction, mais
10 millions.
10 millions.
Parce que alors. On entend, oui, c'est bien, mais c'est pas cher payé, entre guillemets, pour les 36 ans passés au club. Et parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que si Textor s'est intéressé à ce club avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le groupe OL, avec le stade, les féminines, c'est Jean-Michel Aulas qui, on le rappelle, a repris le club en D2 sur le conseil à l'époque de Bernard Tapie en 1987, qui l'a poussé à le faire et qui a construit une véritable machine de guerre. On a souvent... critiquer la froideur de ce club. Et ce qui est vrai, c'est que c'est pas le club populaire par essence comme va l'être l'Olympique de Marseille.
Ça venait entre autres de Jean-Michel Aulas.
Mais ça venait de lui.
Des Clément, oui.
Mais n'empêche que la réussite a été exceptionnelle pendant 25 ans, on va dire. Les 10 dernières années sont plus douloureuses. Mais encore une fois, si Textor rachète ce club-là, c'est parce qu'il y a une académie, c'est parce que c'est un club qui est comment dire, le plus, on va dire, le, non pas bankable, mais on va dire, même si les résultats étaient en berne depuis des années, c'était quand même le club qui ressemblait...
C'était le meilleur modèle.
Au meilleur modèle français possible, on va dire.
Moi, ce que je retiendrai de Jean-Michel Aulas, c'est... Alors, c'est 7 titres, etc. Il y a quand même 20 ans... Non, combien ? 24 ans de suite en Coupe d'Europe.
Oui.
24 ans de suite.
Un quart de siècle.
Un quart de siècle. Donc, il a 36 ans de présidence, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. 24 en Coupe d'Europe.
Et les premières années, il ne pouvait pas y aller puisqu'il était en D2.
Voilà, il était en D2. Ça, c'est absolument remarquable. Au-delà de... Ben, il y a aussi les féminines, propriétaires du stade, l'académie, etc. Mais... Et on avait envie avec Maxime, justement, d'un petit peu le classer dans l'histoire des présidents de Division 1 et de Ligue 1. On a fait une sélection. On a sélectionné 4 présidents. Nasser El-Khelaïfi, donc le président actuel du Paris Saint-Germain, qui a gagné 8 championnats et 6 Coupes de France. Bernard Tapie, évidemment, l'ancien président de l'OM, 4 championnats, une Ligue des champions et une Coupe de France. Roger Rocher, le président des vertes années stéphanoises, 9 championnats, 6 Coupes de France. Et donc Jean-Michel Aulas, 7 championnats et 2 Coupes de France. Et avec Maxime, on est arrivé quand même à une conclusion qui est la même, c'est que c'était le plus grand.
Bah oui, parce que le problème avec les deux historiques que sont Rocher et Tapie, c'est qu'il y a une fin en eau de boudin et qu'il y a des histoires un peu la caisse noire et puis l'OM, OMVA, etc. Alors, dans un monde, on va dire, sans histoire, on dirait que c'est Bernard Tapie, tout simplement. Il prend le club en 7 ans, il gagne la Ligue des Champions. 4 fois champion de France, ce serait 5 parce qu'il n'y aurait pas eu l'histoire du 5e titre retiré. La question ne se poserait pas, mais c'est vrai qu'il y a ces casseroles-là qui font que, évidemment, ça ternit. Roger Rocher, pareil, il y a 9 titres avec Saint-Etienne, mais à la fin, c'est la caisse noire. Donc, ça ternit un peu. Et il y a des épopées européennes aussi avec Saint-Etienne. Après, on peut dire Al-Khelaïfi. Oui, mais bon, je pense que... Moi, très honnêtement, je me suis posé la question... Si Aulas avait eu les moyens du PSG dans les années 2000, je ne suis pas loin de penser qu'il serait allé en chercher une de Ligue des Champions. Voilà. Parce que avec des moyens aussi importants, c'est ce qui a manqué finalement à Aulas à un moment, le petit coup de boost. Mais n'empêche que sur l'ouvrage global des 36 ans et surtout les 25 premières années, de prendre un club, en faire ce qu'il était pour le ramener, l'amener là où il est, alors qu'il n'avait jamais été à cette hauteur-là. C'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est que les clubs qu'on a cités, comme l'OM par exemple, avaient eu une histoire qui était quand même plus riche avant, même s'il n'y a rien à voir avec les années 90. Là, Aulas, il a pris, club d'une très grande ville et en a fait un immense club.
Ouais, tout à fait. Moi aussi, je mettrais Jean-Michel Aulas. La seule petite chose qui me manque par rapport aux autres, c'est que c'est vrai cet attachement dû à un exploit européen. Il y en a eu des exploits européens. Est-ce qu'il y a eu une épopée marquante ? Est-ce qu'il y a eu une année en Coupe d'Europe où tout le pays était derrière Lyon ? J'ai pas ce souvenir-là. Et c'est vrai que c'est peut-être ce lien qui manque entre les, j'allais dire, les non-lyonnais et l'Olympique lyonnais. Il en est en partie responsable, mais on peut difficilement lui en vouloir vu ce qu'il a apporté à ce club-là.
Ils avaient le tort aussi, les Lyonnais, enfin le tort, c'est pas leur faute, c'est de passer après les grandes épopées européennes de Saint-Etienne. Reims, c'est trop loin, Saint-Etienne, club populaire par excellence. Marseille, club populaire par excellence. Et Paris, qu'on peut aussi classer là-dedans, même s'il a une autre image. Paris, c'est un peu le chaînon entre les deux. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait plus de mal à s'enflammer sur les épopées de Lyon. Alors moi, il y a des moments marquants. Bah, évidemment, il y a les deux quarts de finale à Eindhoven et à Milan, avec deux crèves-cœurs, avec le pénalty Nilmar. Et évidemment,
peut-être que si ça passe à ce moment-là, l'histoire...
C'est ça, parce que finalement, quand ça passe en 2010, en demi-finale... C'est Bordeaux en quart. Alors ça, ils y sont pour rien. Mais du coup, ça fait toujours un peu bizarre, des duels un peu franco-français. C'est rare, mais ça fait toujours un peu... On se dit, on n'a finalement pas battu une équipe européenne. Et puis cette demi face au Bayern, qui est à peu près terminée, on va dire, au bout de 37 minutes à l'aller, où on se doute que ça va pas bien se terminer. Et puis après, il y a l'exploit 2020, mais c'est pareil.
Le momentum de l'OL est passé.
Ouais, voilà. Et c'est vrai que la bascule, elle est là pour moi. C'est vraiment au moment où il y a cette gradation lente en Coupe d'Europe. Ça démarre de Maribor, où ils ne passent pas les tours préliminaires, pour arriver à ces quarts de finale. Au moment où, en plus, on est à une ère européenne où elle est ouverte, finalement, la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu Porto qui l'a gagné avant. On se rend compte qu'une équipe qui travaille bien, qui est costaud, peut y arriver. Et ce Lyon-là ressemble à ça. C'est vraiment l'entre-deux avant le retour de la surenchère espagnole et un tout petit moment, vraiment tout petit moment de creux anglais, vraiment tout petit moment, mais où on se dit que ça peut le faire. Et là, il rate le coche. Et là, c'est là que vraiment l'OL pouvait inscrire son nom au palmarès.
Ouais, c'est ce qui manquera sans doute à Jean-Michel Aulas, qui a souvent dit que de toute façon, son objectif ultime, c'était de ramener une Coupe d'Europe à l'Olympique lyonnais. C'est la seule chose sans doute qui manquera à son œuvre.
Alors, il l'a ramené avec les filles.
C'est vrai qu'il l'a ramené avec les filles.
Plus qu'une fois. Et c'est vrai que dans le, justement, alors, à l'ère de Rocher, à l'ère de Tapie, voire du... Ah non, PSG, maintenant, non, plus maintenant, mais au moins Rocher, Tapie, il n'y avait pas le football féminin, n'avait pas cette ampleur qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie un peu avec lui, c'est le côté un peu visionnaire, d'avoir senti le coup venir et d'avoir fait, pour le coup, là, de l'OL féminin, un immense club européen. Donc ça, pareil, ça compte aussi dans son héritage qui est immense. Et tu disais tout à l'heure, il mériterait un tour d'honneur. Ouais, j'ose imaginer...
Oui.
Qui va l'avoir sur le dernier match de l'OL en championnat. Ce qui serait beau, c'est que l'OL se qualifie pour une Coupe d'Europe et qu'il soit là, voilà, dernier tour d'honneur, parce qu'il le mérite. C'est vrai que ce qui est un peu perturbant depuis 5 jours, c'est qu'on ne l'entend pas parler.
Ouais.
On l'entendait parler à tort et à travers, même s'il y a des moments où il faisait moins.
C'est bien la première fois, je pense. 5 jours de silence de Jean-Michel Aulas, c'est un record depuis 36 ans, hein, je pense.
Et on a envie de l'entendre parler pour voir, déjà, évidemment, il ne va pas pouvoir dire n'importe quoi, parce qu'il a quand même toujours un rôle à l'OL, parce qu'on lui a donné une indemnité. Généralement, quand on donne une indemnité, c'est aussi pour dire tu fais pas de vagues, mais je ne l'imagine pas.
Il ne pourra pas s'en empêcher.
Voilà, il le fera de manière suffisamment intelligente, parce qu'il voudra défendre son règne, et en même temps il n'y a pas besoin de défendre. Mais c'est marrant parce que j'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux qui résume assez bien ça, ce moment où il s'est fait virer. Ses supporters lyonnais qui n'en pouvaient plus, qui ont dit finalement maintenant c'est bien, on va pouvoir recommencer à l'aimer.
Oui, mais c'est exactement ça. J'espère qu'il va avoir une tribune à son nom ou des choses comme ça quand même.
Si c'était pas à l'ère du naming, tu dis stade Jean-Michel Aulas, point barre.
Exactement. Est-ce qu'il y aura un stade José Mourinho un jour, Maxime? Sans doute. Ça doit sans doute déjà exister, peut-être au Portugal.
Ce serait pas étonnant. Mmh. Petite ville là où il est né, exactement. Etc. Ça me paraîtrait tout à fait plausible. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un déjà. Mais bon.
On est peut-être sur la pire transition de l'histoire, mais on est sur une transition...
qui n'est absolument pas préparée.
Absolument pas préparée. José Mourinho, c'est lui dont on va parler. Pourquoi? Parce qu'on en parle de plus en plus du côté du Paris Saint-Germain. Vous savez, ou alors si vous ne le savez pas, c'est que vous vivez dans une grotte depuis 6 mois, que l'avenir de Christophe Galtier aujourd'hui... est scellé ou semble scellé à la tête de l'équipe première du PSG, que donc Paris cherche un entraîneur, qu'on parle de Thiago Motta, mais qu'on parle aussi de José Mourinho. Pourquoi José Mourinho? Parce qu'il y a une connexion avec Luis Campos, et puis parce qu'on se dit pourquoi pas finalement José Mourinho à la tête du Paris Saint-Germain, un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui sait comment faire, qui a gagné une Coupe d'Europe, la première C4 de l'histoire.
Il sait gagner les Coupes d'Europe.
Ça il sait les gagner. L'an dernier donc avec l'AS Rome, qui avait gagné aussi la Ligue Europa avec Manchester United, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et José Mourinho qui a réagi aux rumeurs qu'il envoie du côté du Paris Saint-Germain, qui a dit « s'ils ont appelé, ils ne m'ont pas trouvé ». Il n'en fallait pas plus pour mettre un petit peu tout le monde en émoi. Cette piste existe, cette piste est crédible, cette piste est-elle la bonne, Maxime?
C'était une formidable idée il y a 10-12 ans. Voilà. Là, Mourinho au PSG, ça donnerait l'impression que le PSG a tout essayé. C'est-à-dire que là, on peut faire une typologie des entraîneurs. Le grand entraîneur, là, Ancelotti, un peu rond, mais qui a suffisamment d'autorité. Blanc, l'entraîneur français qui monte et qui a une philosophie de jeu. Les coups, Emery, Tourelle, les entraîneurs étrangers qui montent. Et puis après, on revient sur un entraîneur français qui a le mojo. Et finalement, ça se passe pas bien, c'est Galtier. Et là, on arriverait sur Mourinho. Mourinho, ce serait le clou du spectacle, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on arrive au truc ultime, c'est le boss de fin, et on se dit, on l'a au PSG, voilà, on va se régaler. Alors, journalistiquement...
Nous, on se régalerait.
C'est fantastique. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut sortir de ça. Et surtout, je pense que José Mourinho est une mauvaise réponse à un vrai problème. Pourquoi aller chercher José Mourinho aujourd'hui? Parce qu'il s'est gagné des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions. Oui, sauf qu'il les a gagnés en 2004, en 2010, avec l'Inter, avec Porto, qui était quand même, avant tout, il faut le dire, des outsiders. Un outsider fantastique qui était Porto, avec une équipe qui jouait formidablement bien au football. Et une équipe de grognards qui était l'Inter, qui savait se plier en quatre, notamment, souvenez-vous, de Samuel Eto'o, arrière-gauche. Ça, j'ai un doute qu'on voit ça un peu au PSG. Que
avec
Verratti...
Mbappé, ouais, j'ai voilà.
Un petit doute. Et ça, c'est important. Mais c'était aussi parce qu'il avait une aura, il a quelque chose. Mais le problème, c'est que le PSG, au fond, il irait le chercher. Pourquoi? Quand on entend ça, parce qu'il a de l'autorité. Mmh. Mais là, on confond autorité et autoritarisme. Et j'ai envie de dire au PSG et à Campos, si tu as besoin d'aller chercher José Mourinho pour tenir ton vestiaire, alors qu'on connaît le problème depuis longtemps, c'est qu'il y a un vrai problème dans le vestiaire et qu'il faut faire le ménage avant qu'il vienne et non pas espérer qu'il dise à Verratti, écoute Coco, là maintenant, il va falloir que tu sois sérieux, t'arrêtes de fumer des clopes et tu t'entraînes sérieusement, ça ne marchera pas. Et qu'il dise à Neymar, écoute Neymar, arrête de jouer à Call of Duty jusqu'à 4h du matin. En fait, c'est pas ça la solution. Le problème, il est beaucoup plus important. Et je pense que si, en tout cas, le PSG fait venir José Mourinho, il faut avoir fait le ménage dans le vestiaire avant, parce que sinon, ça ne sert à rien.
Ouais, mais moi, il y a aussi quelque chose qui ne colle pas entre l'entité QSI et José Mourinho, parce que QSI en général et Nasser en particulier, ce ne sont pas particulièrement des gens qui aiment la contradiction, qui aiment vivre avec ça. Alors, deux choses, soit c'est rapidement la guerre aux yeux de tous, soit alors Mourinho a mis de l'eau dans son vin, et Mourinho qui met de l'eau dans son vin, c'est plus Mourinho. C'est Mourinho. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher Mourinho. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'aussi, Paris est sur aujourd'hui a besoin de stabilité, a besoin d'installer un projet. Est-ce que tu installes Mourinho pour avoir de la stabilité et un projet ? C'est un entraîneur qui reste un an et demi, deux ans max, hein, depuis son départ du Real Madrid dans les clubs qu'il dirige. Généralement, il part un peu à... voilà.
De trois ans, tout le monde est rincé.
Voilà, exactement. Donc, je suis pas sûr que c'est ce qu'il faille au Paris Saint-Germain. Autre chose aussi, sur le style de jeu, on sait que les Qataris... il faut jamais oublier pourquoi le Qatar a investi dans le Paris Saint-Germain. Oui, gagner des titres, etc. Mais ça doit servir quoi ? Ça sert une image. Donc, ça sert l'image du Qatar. Tu confies ton équipe à José Mourinho, tu prends quand même un tout petit peu le risque d'abîmer ton image par des propos, par un style de jeu aussi. Parce que Mourinho... ses équipes, voilà, c'est...
C'est la fin justifie les moyens.
Voilà, c'est la fin justifie les moyens. Je ne suis pas sûr que le Qatar, QSI, Nasser investissent là-dedans. Voilà, moi, c'est... Voilà. Et puis, dernière chose, Mourinho et Mbappé, il y a peut-être un coq de trop dans la basse-cour, à mon avis. Donc, il y a quand même pas mal de bonnes raisons... de se passer de José Mourinho au Paris Saint-Germain.
Ouais, et puis encore une fois, moi, alors là, je fais partie des grands admirateurs de
c'est
José
vrai.
Mourinho.
C'est vrai, on a tendance à l'oublier ça.
Que j'ai toujours apprécié, qui est un immense entraîneur. Et eux-mêmes, au début, versus Guardiola, j'avais tendance, j'aimais bien ce qu'il dégageait et ce qu'il avait réussi à faire avec l'Inter et le FC Porto, qui était, encore une fois, je le répète, une formidable équipe de foot. Maintenant, ça me fait un peu penser à Manchester United, qui, pendant des années, est allé chercher... des entraîneurs en mauvais moment, c'est-à-dire Van Gaal, c'est top, mais Van Gaal, c'était bien il y a 15 ans, quand ils sont allés chercher. Mourinho, pareil, c'était bien avant. Alors vous allez me dire, oui, ils gagnent des Coupes d'Europe, oui, sauf que vous aurez remarqué que les Coupes d'Europe qu'ils gagnent, ce n'est pas celles que le PSG veut aller chercher. Et je pense qu'une C4 pour le Paris Saint-Germain, c'est un peu juste. Voilà. Donc j'ai vraiment un doute, et comme tu l'as dit, voilà. En fait, je pense que c'est aussi un club qui parfois a besoin de sérénité, surtout après une saison comme celle-là. C'était parti pour une saison. Être une saison sereine, mais bon, le PSG ne fait jamais les choses comme les autres. Il s'est retrouvé sous le feu de l'actualité avec des histoires qui ne concernaient même pas le club, notamment les accusations de racisme envers Galtier. Et on sent que le PSG aurait besoin quand même d'une forme de sérénité.
Oui, mais t'as raison.
Mais je pense que il n'en est pas capable. Souvenez-vous, c'était un petit peu différent, mais des derniers mois de Tourelle au PSG, qui a été capable de craquer en conférence de presse, il y a des scènes complètement... surréaliste, où il pète des plombs parce que, évidemment, au-dessus de lui, ça se passe pas bien avec Leonardo. Alors, Mourinho pète pas des plombs comme ça, c'est pas le genre, mais il aime bien le conflit, il se nourrit à ça. Et vraiment, je pense que ce n'est pas ce dont le PSG a besoin. Après, la question se pose, qui alors ? Et c'est là que c'est compliqué pour le PSG, parce que on a vraiment l'impression, comme je disais au début, qu'ils ont à peu près essayé tout ce qu'il fallait. Et ils avaient même des entraîneurs qui faisaient le job, au fond. Ils les ont, entre guillemets, auto-pourris. C'est-à-dire que...
Ancelotti.
Blanc, mais même Tourelle, au fond. Tourelle, ils ont réussi... Le type avait fait finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, trois mois après, à le dégoûter un peu de ça. Alors, c'est pas l'entité PSG, c'était plus autour de Leonardo. Mais enfin, quand même, c'est... la question qu'il faudrait se poser, c'est comment mettre un entraîneur dans les meilleures, meilleures dispositions. Et le PSG ne le fait pas.
Et en plus, avec Mourinho... T'aurais quand même le sentiment, voilà, quand on prend ces derniers clubs, il passe de Manchester à Tottenham, il passe de Tottenham à l'AS Rome, ça dessine quand même une dynamique, un petit déclassement quand même. Alors à l'AS Rome, il fait du bon boulot, il n'est pas champion d'Italie non plus, hein, il fait du bon boulot. Mais passer de l'AS Rome au Paris Saint-Germain, si l'entraîneur a 35 ans, 40 ans, qu'il est en début de carrière, là on a l'impression qu'il est un tout petit peu en bout de course. Mais voilà, mais pour moi, t'as raison, l'argument principal, c'est que le PSG est une poudrière, et là, t'arrives avec un chalumeau. Donc...
On est en plus, on sort d'une décennie où on avait une super élitisation des entraîneurs, Mourinho, Ancelotti, en gros, Guardiola, et les trois se refilaient leur club, plus ou moins. C'est-à-dire que les très grands clubs ne tapaient que dans ce réservoir-là. Et ben là, il en est sorti.
Ouais.
Il est sorti de ça. Et
Klopp donc, ça a pris sa place. Enfin,
ouais, voilà, c'est ça. Et ça ferait bizarre de se dire que demain, ben, Mourinho revient dans ce cercle-là, parce que finalement, le Real ne reviendrait pas le chercher.
Non.
Le Barça, évidemment, n'irait pas le chercher.
Le Bayern non plus.
Le Bayern n'irait pas le chercher. Et c'est le PSG qui irait le chercher. Donc, c'est une forme d'aveu de faiblesse du Paris Saint-Germain d'aller le chercher.
On a fait le tour sur Mourinho, Maxime ?
Ouais. Je l'ai dit, moi, ça me ferait...
Ah, mais nous, on adorerait.
Ah oui, mais les conférences de presse, ça serait fantastique.
Ah, nous, on adorerait. On adorerait la présentation, ce serait... incroyable, mais si Mourinho vient au PSG, bah, il n'y verra sans doute pas Lionel Messi.
C'est peut-être une bonne chose.
Ouais, oui, c'est pas plus mal. Lionel Messi, dont les rumeurs d'un départ pour l'Arabie Saoudite sont de plus en plus présentes. Il y a l'équipe qui nous annonce qu'il y a une offre monumentale, gigantesque, incroyable. Un contrat de 2 ans et un salaire de 500 millions d'euros par an. Donc, c'est, en gros, c'est une opération à 1 milliard d'euros sur 2 ans. C'est pas mal pour Lionel Messi qui pourrait céder aux sirènes saoudiennes. Messi en Arabie Saoudite, alors on a déjà Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Maxime, ça fait mal quand même.
Bah oui, ça fait mal. C'est le deuxième immense joueur du 21e siècle qui partira en Arabie Saoudite. Alors en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que on sent que le ressort, il est évidemment monétaire, tout simplement. Là, il
n'a
pas cherché autre chose.
Non,
parce que l'absolu, il a le choix entre aller à Miami, en gros. Retourner au Barça, j'y crois pas, parce que là, Xavi et compagnie disent oui, ce serait super, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut qu'il revienne, parce que quand on construit un nouveau projet, on peut pas, même tout Messi qu'il est, il a 35 ans, et ça ferait tâche un peu dans la reconstruction, et aussi, on ne peut pas lui demander de jouer gratuitement ou à très peu, ça n'a pas de sens. A priori, il n'en a pas envie. Ouais, moi je trouve que c'est un peu, il y a un côté pathétique, parce que s'il va en Arabie Saoudite, ce qui rajoute au pathétique au fond, c'est qu'il retrouverait Cristiano Ronaldo, et là ça fait un peu...
ça fait le cirque.
Le cirque Pinder, ouais. les vieilles stars qui prennent résidence à Vegas, ou les Harlem Globetrotters, voilà. Il y aurait 2 matchs dans l'année qui intéresseraient tout le monde, et le pire c'est que ça intéresserait du monde pour les voir jouer tous les deux. Voilà, je sais pas, j'avoue que là, je trouvais ça triste qu'il aille là-bas. Mais je comprends aussi, il faut se mettre à la place des sportifs qui ont une carrière très courte. Et là, c'est au-delà de l'argent. C'est-à-dire que vous avez la chance de faire le métier que vous aimez pendant 15 ans, le métier de vos rêves dont n'importe quel, j'allais dire, fan de football rêverait. Et on vous dit à un moment, là, c'est terminé, on peut plus, tu peux plus. Et c'est vrai qu'humainement, ça doit être dur de se dire, là, on pousse à la retraite et j'en ai pas envie. Donc j'arrive à comprendre aussi cette envie de jouer. Après,
coûte que coûte. Ouais.
Coûte que coûte. Après, on va pas se mentir. Qu'il aille à Miami, qu'il aille où il veut, la sortie ne sera jamais à la hauteur du joueur.
Pour moi, c'est ça le problème.
Il n'y avait qu'une sortie qui était à la hauteur. C'était le 18 décembre, je crois que c'est le 18 décembre, 2022, c'est-à-dire finale de Coupe du Monde. J'ai la Coupe du Monde dans les mains et j'arrête tout. Mais s'il n'en a pas envie, c'est compliqué de lui imposer ça.
En fait, c'est ça le vrai problème. Parce qu'avant, les grands joueurs, comment leur carrière s'achevait ? C'était le Qatar, c'était les États-Unis. Voilà, ça s'achevait comme ça. Il faut se souvenir de Pelé et de Beckenbauer qui sont allés faire quand même des piges du côté des États-Unis. Ça posait de problème à personne. Ce sont les portes de sortie normales pour les grands joueurs. Sauf que Ronaldo et Messi... on s'attendait à autre chose parce qu'ils ont tellement écrasé la décennie, voire un peu plus que les 15 dernières années du football européen. C'était les deux plus grands sans discussion possible. Ils se sont partagés les ballons d'or. Ils ont amené le football dans des sphères inexplorées, des records dans des sphères inexplorées. Et donc, on voulait quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont apporté au football. Sauf que, c'est impossible. Alors, il y aurait pu effectivement avoir une fin merveilleuse. Une fin merveilleuse à Barcelone, pourquoi pas. Une fin merveilleuse, effectivement, il gagne la Coupe du Monde, c'est terminé et tout va bien. Mais finalement, ils ont la fin de carrière qu'ont les grands joueurs. Et oui, c'est triste, parce qu'on se rend compte que finalement, là, ils vont retomber dans un truc, ils vont être happés par finalement ce que font le commun des mortels, quoi. Et ça a un côté hyper triste, ouais, c'est un côté hyper triste. Et puis on se rend compte que finalement, l'argent jette tout, quoi.
Et puis... sur le fond de l'histoire, c'est que l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite actuellement ? ils aimeraient avoir la Coupe du Monde 2030. Le Qatar a fait comment pour avoir la Coupe du Monde ? Alors, on ne parle pas des histoires qui sont en train d'être, judiciarisées, mais ils sont achetés un club pour se donner une image planétaire. Mmh. Bah là, l'Arabie Saoudite a décidé de s'acheter les deux meilleurs joueurs, enfin, aimerait s'acheter les deux meilleurs joueurs, en tout cas, de la dernière décennie et deux des plus grands joueurs de l'histoire. Et ce qui est un peu triste aussi, je trouve, je me mets à la place des Argentins ou des Portugais, c'est-à-dire que la Coupe du Monde 2030, l'Argentine y est intéressée aussi, c'est la Coupe du Monde du centenaire, celle en Amérique du Sud, et il ferait cause commune avec l'Uruguay,
Paraguay,
etc. Ouais. Et de l'autre côté, le Portugal, on sait qu'il est aussi intéressé. Et en fait, vos deux plus beaux joyaux iraient défendre la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Je trouve que pour leur image aussi, c'est pas terrible. Alors là, c'est pas de peau pour eux, mais je trouve quand même que c'est un peu moi, ça me laisse un goût amer dans la bouche, comme de les voir tous les deux. Plus, j'ai pas l'impression que Ronaldo ce soit dingo, ce qu'il est en train de vivre en Arabie Saoudite, footballistiquement parlant.
Puis Ronaldo, alors il y a eu le match contre le PSG, il y a eu, voilà, ses premiers matchs.
C'est la foire.
Mais même si Messi y va, même si Alba y va, même si Busquets y va, même si Lloris y va, hein, parce qu'on parle aussi d'Hugo Lloris.
Ça, c'est la grosse surprise.
Ouais, mais au fond, ça changera quoi ? On regardera les matchs du championnat saoudien ?
Non,
ça changera rien parce que tout s'achète, sauf peut-être la passion, l'émotion qu'on met dans le football.
Et puis le niveau aussi. Regarde, c'est, en fait, là, est-ce qu'il a donné... On n'a pas les chiffres, peut-être que localement, ça marche, mais... En quoi le Ronaldo a donné un coup de boost au championnat ?
Alors, je crois que le compte Twitter du club est parti dans des sphères hallucinantes.
Ouais, d'accord.
Oui, non, mais...
Non, mais je veux dire, l'exposition, personne n'a racheté les droits. Vous prenez... en fait, c'est la même situation que le Qatar il y a 20 ans. Quand il y avait des joueurs français qui partaient en fin de carrière, je crois que Desailly n'était pas parti au Qatar à la fin. Franck Leboeuf, je crois. Bon, on savait qu'ils jouaient, mais on regardait pas les matchs pour autant. Bah là, c'est exactement pareil. Et il y a un côté
tu compares Lionel Messi à Franck Leboeuf.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais à l'échelle, à l'époque, qu'il y a un côté un peu rassurant de se dire que ça suffit pas et que le football n'est pas qu'un truc de footix, c'est que quand même la vraie compétition quand même intéresse encore un peu les gens, voilà. Et quant à la sortie réussie, j'ai essayé de réfléchir aux sorties réussies. Ah, c'est compliqué. Finalement, les grands joueurs français...
Zidane, hein, c'est pas mal.
Zidane, oui. Alors, coup de boule mis à part, elle est géniale, sa sortie, parce qu'il dit, OK, la fin, c'est la Coupe du Monde. Mmh. Alors, ça peut être le premier tour, ça peut être une demi, ça peut être un quart. Bah, il se trouve que c'est une finale. Bon, il y a le coup de tête, voilà. Mais c'est
c'est une Coupe du Monde.
La meilleure sortie qui soit. Et pour le coup, à l'échelle d'un joueur de cette... à l'échelle des grands joueurs, c'est le seul à avoir cette sortie-là. C'est le seul immense joueur à quitter la scène sur une finale de Coupe du Monde. Et il y a une autre sortie que j'aime bien, mais là, c'est parce qu'il avait envie de finir comme ça, c'est Michel Platini, qui se rend compte que sa dernière année à la Juve, il n'avance pas. Il ne le dit à personne. Dernier match, je crois que c'est à Vérone en 87, il a 32 ans. Allez hop, c'est terminé pour moi. Et il y a ce côté un peu senior de se dire, il n'y a pas de compte Twitter, mais de ne pas crier sur tous les toits. Je dis, c'est fini, voilà, on s'en va. Mais encore faut-il avoir envie d'arrêter. Et là, pour le coup, Messi n'a pas envie. Et c'est vrai que c'est dur ce crépuscule parce que, quel serait le bon club pour Messi ? Alors, sentimentalement, le Barça, mais sportivement, je pense que ça n'a pas de sens. Et les autres très gros clubs, ils ont vu ce qui se passait au PSG. Alors, c'est bien, il va faire ses 15 passes, ses 15 buts. Mais à un moment, le football, ça va au-delà des chiffres. Et parfois, c'est un poids mort sur le terrain.
En tout cas, toi, Maxime, le crépuscule ne te guette pas encore. Quand j'écoute ton émission, là, c'est...
Faut se méfier, parce qu'il arrive souvent, plus vite qu'on l'imagine.
C'est vrai, mais tant que tu feras 10 000 pas, je pense que tu seras à l'abri du crépuscule, Maxime.
Je ne les ai pas encore aujourd'hui, mes 10 000 pas.
T'en as combien aujourd'hui ?
Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Bon, on est allé marcher pour aller au petit Monop, pour aller chercher à manger.
Pour aller acheter tes amandes grillées.
Des petites amandes, qui est pas mal. D'ailleurs, je sais que tu as bien aimé.
J'en ai mangé 3, ça va.
Ouais, 3.
Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du FC Stream Team. Dont vous aurez chaque semaine maintenant le conseil nutrition de Maxime Dupuy pour avoir un summer body.
Ça va pas être beau, hein,
absolument nickel. Ce que je vous dis, Maxime, le summer body, maintenant c'est toute l'année.
Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Mais il y a encore du boulot.
Mais non.
Faire de la muscu un peu.
Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, tu présentes ton tenue.
Ah ouais, alors là, purée, il me faut un contrat à 1 milliard. Là, comme on a
1 milliard de... Maxime.
1 milliard ? Bah oui, je le fais.
À 1 milliard d'écoutes, tu présentes le FC Stream Team torse nu.
Oh bah 1 milliard d'écoutes, oui.
Bon, voilà.
Sur une émission.
Sur une émission.
Bah oui, 1 milliard. T'imagines 1 milliard, là.
Ça fait un terrien sur 7 qui nous écouterait. C'est vrai que j'étais peut-être un peu ambitieux, là.
Et surtout un podcast, finalement.
Maxime, à 100 000 écoutes. Est-ce que tu
finalement, un podcast torse nu.
C'est vrai. C'est vrai, mais je vous rappelle quand même qu'il y a les vidéos. Qu'il y a les vidéos et les meilleurs moments de l'émission.
Alors oui, la vidéo, c'est les meilleurs moments de l'émission. C'est-à-dire que les gens qui les découvrent sur le site qui ne nous connaissent pas vont voir une vidéo s'ouvrir avec un mec torse poil qui parle de foot. Il n'y a rien qui va dans cette histoire.
Mais c'est un vrai concept.
C'est un vrai concept.
Franchement, ce serait chouette. Merci à monsieur Alban du Cardonnet.
Hein. Alban, avec qui les émissions sont.
Je sais pas.
Sont généralement OK.
OK, elles sont OK. C'est OK. Vrai. Elles sont OK, Alban. Physique d'Apollon.
Voilà.
Mais physique de derrière la caméra quand même, tu vois. Parce que c'est physique d'Apollon qu'on cache. Voilà, qu'on cache derrière la caméra. Merci à Quentin pour les visuels.
Qui lui, on le voit. Ah si, on le voit dans Mercredi Mercato.
Ouais, mais.
Ça va bientôt être le retour d'ailleurs de Mercredi Mercato.
C'est vrai, tout à fait.
Avec les quiz. Et j'aimerais bien participer plus régulièrement. Pour, vous mettre, ouais. pour vous mettre à l'amende.
Pour remettre l'église au centre du village.
voilà.
Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera sans moi.
Encore fois.
Ouais, ça fera 3 stream teams sur 400 mois.
Non, super. Hein.
Le mec, mais j'ai des jours de congé.
Oui, je tiens à dire que moi j'avais des jours de congé, mais que j'ai été réquisitionné.
Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Moi je
suis pas
Paris.
Et je la ferai avec qui d'ailleurs.
Sans doute.
Peut-être avec... Arthur Merle.
Ouais,
avec... hey, c'est une... Je crois que je n'ai jamais fait
qui
avec
s'affirme.
Arthur Merle.
Qui s'affirme de plus en plus.
Ouais. Très très bonne analyse, Arthur Merle. Ouais. J'ai envie de dire, l'oiseau quitte le nid, petit à petit.
Merle, l'oiseau. Ça va pas chercher plus. Hein,
ouais, parce que c'est, tu l'as fait jamais.
Ah, non, j'avais même pas qu'il avait un oiseau. Je m'en rends compte aujourd'hui. À la semaine prochaine pour Maxime, à dans 2 semaines pour moi. Donc, peut-être pas forcément la peine de venir la semaine prochaine si vous voulez de l'analyse de qualité. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.